Le journal Bruno Duvic.
Bonjour à tous et merci d'être avec nous sur France Inter. 17h cet après-midi, baisse d'activité à prévoir dans les entreprises. France-Pérou, deuxième match de la Coupe du Monde pour les Bleus. C'est à Yekaterinbourg dans l'Oural. Équipe plus trapue et expérimentée que samedi, Matuidi et Giroud devraient faire leur retour. La France a déjà perdu un match, celui des supporters. Les Péruviens sont champions du monde en la matière, vous verrez. 21 juin, si vous regardez le match en terrasse, il y aura de l'ambiance. C'est aussi la fête de la musique. Nous en entendrons quelques échos à Bordeaux. La politique sociale, c'est un pognon de dingue et les gens ne sortent pas de la pauvreté. Emmanuel Macron aurait-il exagéré ? Une étude de la DRES, les statistiques des ministères sociaux, montrent une réalité plus nuancée. Jean-Marc Aubert de la DRES est notre invité. Dans cette édition encore, le rendez-vous santé du jeudi, quel nouveau traitement contre la migraine, cette maladie qui rend la vie infernale ? Le texte très controversé sur le secret des affaires adopté ce matin. Prendre des photos sur les jupes des filles passibles de prison. C'est en débat en Angleterre. À la SNCF, la victoire en justice des syndicats sur la question des retenues sur salaire pendant la grève. Quand les Macron veulent une piscine à Brégançon. Et puis Instagram, le réseau social, plus d'un milliard d'utilisateurs. Bonjour Élodie Calac.
Bonjour à tous.
La météo, fêtons-nous la musique sous le soleil. Ça se rafraîchit au nord.
Oui, ça se rafraîchit effectivement. 16 à 23 degrés. La perturbation nuageuse laisse derrière elle de l'air plus frais. On va la retrouver du Berry au nord-est cet après-midi. C'est du soleil qui revient du nord-ouest au nord de la Seine. Et puis ailleurs, de bons moments de soleil, mais ça devient orageux localement d'abord en montagne et puis jusqu'en plaine pour la fin de journée, avec des températures encore chaudes, 24 à 35 degrés.
Et est-ce que vous avez le temps à Yekaterinbourg ou jouera l'équipe de France ?
Oui, pas vraiment de bonnes nouvelles. Hein. De la fraîcheur, 14 degrés seulement pour le coup d'envoi et puis des averses et en prime un petit vent assez sensible.
Merci Élodie Calac, on vous retrouve à 13h30. La suite du programme, ce sera la marche de l'histoire autour de l'œuvre de George Orwell 1984. Vous êtes les bienvenus dans le journal de 13h. Allez, avant de plonger dans la passion foot, quand l'actualité à l'étranger montre beaucoup d'évolutions de société. Un joint, un bébé, une jupe. Le joint d'abord, pour la première fois, un grand pays occidental autorise la consommation pour le plaisir du cannabis, c'est le Canada. À partir du 17 octobre, les adultes pourront acheter, cultiver, consommer une quantité limitée de potes, comme disent les Québécois. Le rendre légal, c'est mieux protéger nos jeunes et priver d'argent le crime organisé, dit le chef du gouvernement Justin Trudeau. Être femme et diriger son pays, être femme et accoucher alors qu'on est au pouvoir. La première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern vient d'avoir une petite fille. Interrogée il y a quelques semaines sur la compatibilité entre sa grossesse et ses fonctions, elle avait eu cette phrase « Je suis enceinte, pas handicapée ». La jupe, c'est Antoine Gignot, correspondant de France Inter à Londres, qui va nous en parler. Bonjour Antoine.
Bonjour Bruno.
Sous les jupes des filles, chante Alain Souchon. Eh bien, le gouvernement britannique veut criminaliser le fait de prendre des photos sous les jupes des femmes.
Absolument. 2 ans de prison maximum, c'est la peine encourue. Les coupables pourront aussi être inscrits au registre des délinquants sexuels. Un soulagement pour Maya, 24 ans, robe bleue et talons hauts. Elle est étudiante à Londres.
Il faut vraiment les mettre en prison. C'est arrivé à beaucoup de mes copines et c'est pas juste d'avoir des photos de vous qui circulent alors que vous n'êtes pas au courant. Ça arrive surtout quand on sort le soir dans des endroits bondés. On a eu des problèmes dans les clubs et on a été obligé de faire avec. Alors je suis contente qu'on fasse quelque chose au niveau national.
Le texte, retoqué il y a quelques jours à cause d'une faille juridique, va finalement être présenté par le gouvernement aux parlementaires. Il sera validé avant l'été, promet la première ministre. Tout est en fait partie d'une pétition lancée par Gina Martin et qui a recueilli plus de 100 000 signatures.
Dès que j'ai mis en ligne la pétition, j'ai reçu tellement de messages. C'était évident qu'il fallait continuer. J'ai commencé cette campagne parce que ça m'est arrivé. Deux gars ont pris des photos de moi sous ma jupe. J'ai vu les photos sur les téléphones de leurs amis. J'ai emmené un téléphone à la police. Ils étaient désemparés vis-à-vis de la loi. Ils ne pouvaient pas faire grand-chose.
Cette nouvelle législation va donc changer la donne. Elle s'appliquera aussi bien aux femmes qu'aux hommes pour répondre aux préoccupations des Écossais victimes de photos prises sous leur kilt.
Merci Antoine Gignot, direct de Londres. La vie de société à l'étranger, suite et fin. Passer le bac à l'heure d'Internet et des réseaux sociaux avec les risques de fraude que cela comporte. Une décision radicale est prise en Algérie. L'accès à Internet est totalement coupé pendant le bac à la première heure de chaque épreuve. Donald Trump reconnaît que sa femme et sa fille ont eu une influence dans sa dernière décision en date. Le président américain n'assume plus la séparation des parents clandestins et de leurs enfants à la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Il a signé un décret pour y mettre fin. Reste à mesurer la portée juridique de ce texte. Le débat s'annonce mouvementé au Congrès de Washington. En Europe, le prochain rendez-vous important à propos de la politique migratoire, c'est dimanche. Au moins 10 dirigeants européens seront réunis à Bruxelles. Parmi les sujets en discussion, celui des hotspots, des centres de traitement des demandes d'asile dans les pays de départ ou de transit des migrants en dehors de l'Europe. Le Maroc, par exemple. France Inter à Rabat, Stéphanie Wenger.
La question des hotspots dans les pays du sud de la Méditerranée est évoquée régulièrement depuis quelques années. Hotman, 43 ans, aimerait en savoir plus sur ce que les dirigeants européens attendent du Maroc. Il est plus que sceptique.
Est-ce que les Marocains ont le poids pour négocier des contreparties vraiment intéressantes, des retombées économiques, un soutien et des conditions meilleures pour les immigrés surtout?
Pour Amina, en revanche, le Maroc ne doit pas rester en retrait sur cette question globale.
J'aimerais que le Maroc puisse participer. Moi, je suis d'accord. Si jamais on peut voir quand même une lumière, un espoir pour résoudre ce problème, parce que franchement, en tant qu'être humain, je ne peux pas me permettre de regarder ces souffrances dans ce monde et ne pas faire quelque chose.
Raimé, 22 ans, vient de Guinée équatoriale. Il étudie depuis quelques mois à Rabat et cette nouveauté, selon lui, ne devrait pas modifier la situation.
C'est la vérité. Pour un Africain qui veut aller étudier là-bas en Europe, c'est vraiment difficile. Avec la paperasse et tout le reste, c'est très difficile.
Un indicateur de la part que prend déjà le Maroc dans la question migratoire européenne. Depuis 3 ans, selon le HCR, le nombre de réfugiés enregistrés dans le pays a augmenté de 300%. Rabat, Stéphanie Wenger, France Inter.
L'actualité internationale, c'est l'horreur de la guerre. Encore et toujours en Syrie, plus de 12 000 Syriens ont fui ces 3 derniers jours la province de Dera au sud du pays, province majoritairement contrôlée par les rebelles et cible de bombardement du régime syrien.
France Inter, le journal de 13h. Bruno Duvic.
Nous en venons à la Coupe du Monde pour les amoureux de football. Ce jeudi, a un parfum particulier. C'est un jour de match de l'équipe de France. France-Pérou à 17h. Les enjeux sportifs dans un instant. D'abord, la grande question, comment allez-vous vous organiser si vous voulez absolument voir la rencontre? Samedi, pour l'entrée en lice de l'équipe de France, nous étions 13 millions devant la télévision. C'était le week-end, c'était facile. Là, 17h, ce n'est pas commode. Le bureau, les enfants à récupérer, etc. Imaginez l'enfer pour les conducteurs de tram, fans de foot et qui seront en service à 17h. Eh bien, il y a la radio, mais oui, c'est drôlement chouette. Reportage de Julien Morin, France Bleu Isère.
Il y a ceux qui prennent une pause pour suivre les Bleus, ceux qui ont droit à une télévision sur leur espace de travail. Et puis il y a entre autres les conducteurs de transport en commun. Évidemment, pas question d'arrêter les lignes pendant 1h30, encore moins d'installer un écran dans les cabines. Mais comme tous les passionnés, impossible pour Lazare de rater les matchs.
J'écoute la radio, hein. Tous les matchs. Ben, on a le droit, donc on main libre, quoi. Pas avec les écouteurs. Je mets le portable en haut-parleur et j'écoute la radio.
Alors pour cet après-midi...
Déjà je pense que je vais bien charger le téléphone. À bloc, il n'y aura pas d'accrochage. Pour moi ou pour l'équipe de France?
Prudence avant tout, vigilance absolue même, explique cet autre conducteur, surtout s'il y a victoire des Bleus après la rencontre.
Très vigilant.
Oui, parce que les gens débarquent...
N'importe comment, ouais, devant vous, et puis bras en l'air... Saut de cabri, voilà, tout à fait aussi, ouais. Absolue, vigilance, maître mot.
Et donc si à partir de 17h vous croisez un chauffeur de tram ou de bus le poing en l'air, c'est probablement qu'il écoute France Bleu et célèbre un but de l'équipe de France.
Antoine Griezmann derrière ce ballon, c'est sifflé par Monsieur Cunha. Antoine Griezmann va s'élancer, c'est parti, c'est au fond.
Voilà, sur France Inter, hein, pas de match en intégralité tout à l'heure, mais des points régulièrement sur le score. Allez, les enjeux sportifs, le jour de l'anniversaire de Michel Platini, 63 ans, happy birthday Platoche. Les Bleus seraient bien inspirés de sortir un beau match face au Pérou après la purge de samedi dernier contre l'Australie. Des Bleus trop lents, trop brouillons, trop tendres. Sébastien Hazard, l'équipe alignée tout à l'heure devrait avoir plus d'expérience que celle de samedi, qui avait tout de même gagné 2-1. Jusque-là, les Bleus n'ont pas été à la hauteur des très hautes ambitions affichées, notamment par le président de la République.
Une compétition réussie, c'est une compétition gagnée. Peut-être, mais avant de penser à quoi que ce soit, il y a le Pérou.
Didier Deschamps est focalisé sur cette rencontre. Elle peut propulser les Bleus en huitième de finale ou placer le foot français dans l'embarras. On peut et on doit faire mieux, martèle le sélectionneur. Dès la fin du match face à l'Australie, le président de la Fédération française était à peu près sur le même registre. D'un point de vue comptable, tout va bien. Un match, trois points, tous les favoris n'ont pas réussi cette performance. Mais sur le terrain, les Bleus sont apparus apathiques et sans idée. Le talent est là, aucun doute. Mais dans ce genre de compétition, le talent ne suffit pas. Blaise Matuidi est très clair à ce sujet. Il faut aussi du tempérament. Le milieu de terrain n'en manque pas, d'où son probable retour dans le 11 de départ. Ne lui demandez pas de réaliser des passements de jambes, ce n'est pas son truc, mais motiver ses partenaires, harceler l'adversaire, ça il sait faire. Quant à user la défense et permettre à la France de peser dans la surface de réparation péruvienne, Olivier Giroud va sans doute s'en charger. Lui aussi devrait faire son retour sur le terrain dès le début du match. Yekaterinbourg, Sébastien Hazard, France Inter.
C'est Dembélé et Tolisso qui devraient faire les frais du retour de Matuidi et Giroud. Ce match dont l'arbitre vient des Émirats Arabes Unis marquera aussi la 100e sélection du gardien et capitaine Hugo Lloris. Rencontre, nous entendions Sébastien à l'instant, à Yekaterinbourg, là où les Romanov avaient été assassinés sur ordre de Lénine. Nous sommes à 1500 km de Moscou. Le stade est pour le moins étrange. Une partie des tribunes est montée à l'extérieur de l'enceinte. Et sur un plan au moins, les Français ont d'ores et déjà perdu la bataille des supporters. Les Péruviens n'avaient plus vécu de Coupe du Monde depuis 1982. Ils sont bien plus nombreux en Russie. La soirée d'hier à Yekaterinbourg, pleine de joyeux vêtus de rouge et blanc, en témoigne envoyé spécial de France Inter, Béatrice Duguet.
Les serveurs des bars et restaurants de la capitale de l'Oural se souviendront de cette soirée. Les supporters péruviens ont chanté jusqu'au bout de la nuit. Et ce matin, ils sont toujours là, à déambuler dans les rues malgré le temps incertain. Maillot de la sélection obligatoire, drapeau sur les épaules et sur la tête, au choix, la casquette rouge et blanche ou la coiffure inca bricolée.
Je m'appelle Francisco.
Nous les fans, on a un cœur énorme, on aime notre équipe. Et ça fait 36 ans que nous ne sommes pas venus au Mondial. Donc pour nous, c'est un événement très important. Qu'on gagne ou perde, on est là. Mais aujourd'hui, on va gagner. On a une grande équipe, une bonne équipe, un groupe, un bon groupe.
En face, les supporters français savent qu'en nombre, ils auront du mal à lutter. Betty, originaire de Reims, nourrit bien le contingent français pourtant. Elle est là avec un mari et trois enfants.
Non. Nous, on est venus avec toute la France en fait. On n'est pas nombreux, mais dans le cœur, on y est tous là. On est sûr, on a de la voix. On est français, on a de la voix, on y croit. Como no te voy a
querer. En décibels, ça risque de ne pas suffire.
On leur laisse la victoire des tribunes contre une victoire de l'équipe de France, comme ça, il n'y aura pas de problème.
Ekaterinbourg, Béatrice Duguet, France Inter.
La France-Pérou à 17h, avant cela dans le même groupe à 14h, Danemark-Australie. La France peut être qualifiée dès ce soir pour les huitièmes de finale si elle gagne et que l'Australie ne bat pas le Danemark. Au programme également aujourd'hui, Argentine-Croatie à 20h. L'Argentine et Messi ont raté leur entrée dans le mondial. Match nul et un pénalty raté pour la star. Son grand rival Ronaldo, lui, a déjà marqué 4 buts. À 13h12, nous accueillons l'invité de notre journal. Bonjour monsieur Jean-Marc Aubert.
Bonjour monsieur.
Vous êtes responsable du service de statistiques des ministères sociaux, l'ADRES, invité pour prolonger au fond la discussion après ces propos d'Emmanuel Macron qui ont beaucoup fait parler la semaine dernière.
La politique sociale, regardez, on met un pognon de dingue dans des minima sociaux, les gens ils sont quand même pauvres.
Voilà. Alors, l'ADRES, Jean-Marc Aubert, publie une étude sur le système de protection sociale. Le premier constat, c'est que, c'est vrai, la France dépense plus d'argent que les autres pour la protection sociale.
Oui, nous sommes dans le premier pays dans la dépense. On dépense un tiers de notre richesse produite en France chaque année pour la protection sociale.
Plus que les autres pays européens, plus que même dans le reste du monde.
Plus que dans tout État européen. Le deuxième, c'est le Danemark. Mmh. Un point de moins que nous. Mmh. Et plus que dans le reste du monde, puisque l'Europe est un endroit où la protection sociale est très importante.
Alors, ça recouvre quoi? Ça recouvre la retraite, la santé, le chômage. Quand on parle de ces dépenses, de quoi parle-t-on?
Alors, la première dépense, c'est la retraite. 300 D'accord. milliards d'euros sur les 750. Mmh. La deuxième dépense, c'est la santé. 250 milliards d'euros. Après, on a des dépenses comme la politique familiale, la politique d'indemnisation du chômage, la politique de lutte contre l'exclusion. Mais c'est des politiques beaucoup moins importantes que la politique de santé et de retraite.
Mais donc la très grande majorité, c'est vieillesse
tout
et
à
santé.
Fait. Tout à fait.
Quand Emmanuel Macron parle de lutte contre la pauvreté, il parle vraisemblablement des allocations, des minima sociaux. Cette part-là, c'est quoi? C'est moins de 5%. C'est une très petite part de nos dépenses de protection sociale.
Cette part-là, c'est une petite part de nos dépenses de protection sociale. Ça représente quand on prend l'ensemble des allocations, environ 60 milliards d'euros, 57 exactement, en 2016. Et donc, il s'agit d'abord des minima sociaux, 26 milliards d'euros, et puis il s'agit aussi de quelques autres allocations. On a des allocations très ciblées sur la lutte contre la pauvreté, comme la prime pour l'activité, c'est à peu près 14 milliards d'euros. Et puis, on a aussi des prestations sociales, qui sont comme les allocations familiales ou comme les aides au logement, qui sont quand même très dirigées vers les ménages les plus pauvres, puisque, par exemple, sur les aides au logement, sur les 18 milliards d'euros de dépenses d'aide au logement, il y en a 10 milliards qui sont utilisés vers les ménages pauvres.
Est-ce que ces allocations permettent de sortir de la pauvreté? Est-ce que le système est efficace?
Alors, sur la pauvreté, je dirais une année donnée. Ces allocations ont un effet important, puisque si on n'avait pas ce système d'allocation, on aurait 22% des gens qui seraient pauvres. Mmh. Et grâce à ce système, on a que 13,6% des gens qui sont pauvres. Donc, on passe de environ une personne sur 4, 5 à une personne sur 7. En plus, il faut bien voir que pour un ménage pauvre, l'ensemble de la protection sociale représente 2/3 de ses revenus.
Ah oui.
Donc, en plus, les pauvres seraient vraiment très pauvres s'il n'y avait pas ce système. En revanche, le problème, c'est que sur la dynamique d'une vie d'une personne, le résultat est plus contrasté. Mmh. On a quand même, par exemple, 20% des gens qui aujourd'hui ont le RSA, donc le minimum que leur donne la protection sociale, il y en a 20% de ces gens-là qui l'ont depuis 10 ans. Sans discontinuité.
Donc, si je vous suis bien, les allocations permettent de vivre, de mieux vivre, mais ne permettent pas, ou pas assez, de sortir de la pauvreté.
Voilà. Probablement, elles permettent de vivre. Elles ne permettent probablement pas assez, même si les effets sont contrastés. Hein, on peut pas dire ça permet pas du tout. Non, mais ça. Force est de constater qu'il y a des gens qui restent dans la pauvreté pendant plus de 10 ans. Hein, 10 ans, c'était l'intervalle d'études.
De ce point de vue-là, est-ce que des voisins européens ou d'autres pays font mieux? Est-ce qu'il y a des pistes à chercher ailleurs?
Alors, il y a des pays... Enfin, la France est parmi les pays dans lesquels le taux de pauvreté est le plus faible.
Oui. Hein.
Aujourd'hui, il y a par contre, chaque pays essaye de lutter contre la pauvreté. Dans les pays comme le Danemark ou comme la République tchèque, par exemple, où les taux de pauvreté sont du même niveau ou un peu plus faibles qu'en France, il y a des politiques publiques pour essayer de lutter contre la pauvreté, contre la persistance de la pauvreté, et qui méritent d'être étudiées. Il n'y a pas un pays qui a une solution miracle, hein, puisque, comme je vous disais, on est parmi les pays où il y a la pauvreté le plus faible.
Merci beaucoup Jean-Marc Aubert d'avoir répondu à nos questions. Et si vous voulez des détails chiffrés sur cette étude, c'est sur le site de l'adresse et sur franceinter.fr. La grève à la SNCF reprend ce soir. Est-ce bientôt la fin? Au moins 2 des 4 syndicats grévistes ne veulent pas aller au-delà du 28 juin. On en parlait hier. La CGT veut continuer. Sudrail ne s'est pas encore prononcé. Cette grève intermittente avait été organisée pour tenir le plus longtemps possible. Et la direction de la SNCF avait répondu à cela en incluant des jours de repos dans le décompte des jours de grève, ce qui avait évidemment des répercussions sur la feuille de paye. Bonjour Maxime Debs.
Bonjour.
Les syndicats avaient porté plainte en justice et bien ils viennent d'obtenir gain de cause.
Oui, une victoire dont se félicite aujourd'hui Maître Dabia Mesbahi. Elle est l'avocate de l'UNSA dans cette affaire.
C'est une excellente nouvelle pour les cheminots qui a été condamné par le tribunal. Ce sont les manœuvres de la SNCF qui soutenaient que c'était les organisations syndicales qui avaient un comportement frauduleux, alors que c'était pas du tout le cas.
Dans son jugement, le tribunal a donc estimé que les jours de repos liés aux jours de grève devaient être payés et non faire l'objet de retenue de salaire, ubuesque pour la SNCF, qui invoque une question de bon sens. On ne peut pas compter de jours de congé à des agents qui n'ont pas travaillé. L'entreprise prend certes note de la décision, mais ne veut pas pour autant en rester là. La SNCF va donc faire appel, ce qui fait déjà bondir les syndicats, dont Didier Aubert de la CFDT Cheminots.
À chaque jour sa peine, elle fait le choix de l'appel. Nous disons que le dialogue social doit être reconstruit dans cette entreprise et elle ne reconstruit pas à coup de tribunaux. Donc on aura l'occasion de s'exprimer vis-à-vis de la SNCF en lui disant qu'elle a perdu en première instance et que ça arrête là.
En attendant, la SNCF n'a d'autre choix. La décision du tribunal étant exécutoire, elle va régulariser la situation des cheminots concernés, lesquels, à l'heure qu'il est, ont déjà quelques motifs d'être soulagés.
C'est un texte qui inquiète beaucoup la gauche, les médias, les associations. Le Parlement a adopté définitivement ce matin la proposition de loi sur le secret des affaires. À 13h20, nous en venons au rendez-vous santé. Chaque jeudi, dans ce journal de 13h, c'est Daniel Messager qui est là. Bonjour Daniel.
Bonjour Bruno.
Nous parlons cette semaine de la migraine qui peut rendre la vie insupportable chez soi comme au travail.
63% des personnes victimes de migraines sévères subissent en effet des répercussions dans leur vie professionnelle. Absentéisme, moindre efficacité. C'est le résultat d'une étude qui vient d'être présentée au congrès de l'Académie européenne de neurologie.
Combien de migraineux en France ? Pas moins de 8 millions de personnes souffrent de migraines.
Et dont 2 millions de migraines chroniques tous les jours. Le professeur Dominique Valade est neurologue, spécialiste de la migraine dont il faut distinguer plusieurs types.
Il y a deux types de maladies migraineuses, les migraines sans aura et les migraines avec aura. L'aura étant les signes neurologiques qui précèdent le mal de tête. Des troubles visuels, par exemple, des hallucinations visuelles, ou des fourmillements qui remontent le long du bras jusqu'à la bouche, ou des troubles de la parole, ceci précède la céphalée pendant environ une demi-heure, et la céphalée survient à ce moment-là. Dans les migraines sans aura, il faut avoir fait au moins 5 crises. Si l'on n'est pas dans ce laps de temps, eh bien, il faut faire des examens complémentaires pour s'assurer qu'il s'agit vraiment d'une maladie migraineuse.
Parce que lors d'un violent mal de tête, on peut aussi envisager d'autres choses.
Une migraine, ça s'installe progressivement. Alors que si vous avez ce qu'on appelle une céphalée en coup de tonnerre, qui s'installe en moins de 30 secondes, là, il faut absolument, absolument faire des examens complémentaires immédiatement.
Alors comment en sortir, Daniel ? Il y a une avancée médicale, on va pouvoir mieux traiter la migraine ?
Ça vient tout juste de sortir et d'être présenté aux États-Unis.
Depuis une quinzaine de jours, c'est sorti aux États-Unis. Il y a ce que l'on appelle de l'immunothérapie.
L'immunothérapie, le principe, c'est qu'on va booster l'organisme pour qu'il se défende.
Voilà, on va booster l'organisme pour qu'il se défende. Et le gros avantage, c'est qu'au lieu de prendre des médicaments tous les jours, on fera une piqûre une fois par mois et qui couvrira le mois entier comme traitement de fond.
Quelques conseils pour éviter des migraines classiques ?
Alors, pour éviter la migraine, il y a une chose qui est extrêmement importante, c'est l'hygiène de vie. Il faut impérativement se lever heure fixe, se coucher heure fixe, et manger heure fixe.
Mais ça peut être un peu triste, non ?
C'est pas un peu triste, c'est très triste. Mais malheureusement, j'ai pas fini. Il faut aussi éviter des choses comme l'alcool, enfin tout ce qui est festif. Et on a peut-être une chance dans ce cas-là d'avoir moins de maladies migraineuses.
Ah bah dites-moi merci Daniel Messager.
Mais attendez, c'est pas fini, sauf en plus si on est prédisposé, car la migraine peut aussi être génétique, avec davantage de risques malheureusement quand un des deux parents est déjà migraineux.
Merci Daniel Messager, le rendez-vous santé chaque jeudi dans le journal de 13h. Voilà une histoire qui rappelle l'affaire Vincent Lambert, mais il y a deux différences. La première différence, c'est que le patient au CHU de Nancy est une mineure, une adolescente de 14 ans, elle s'appelle Inès, maladie neuromusculaire, crise cardiaque il y a un an, elle est dans le coma depuis, dans un état végétatif persistant, disent les experts. La famille est contre l'arrêt des soins, mais c'est l'autre différence avec l'affaire Lambert. Les médecins ont quand même décidé d'arrêter les soins après épuisement de tous les recours juridiques. Écoutons l'avocat d'Inès, maître Bernard-Marie Dupont.
C'est très difficile pour eux. Il y a aussi, j'en suis convaincu, beaucoup de souffrance de la part des équipes soignantes, beaucoup d'incompréhension, un dialogue impossible, un dialogue de sourds, si je puis dire. Au milieu de tout ça, une petite fille qui va partir. Et on me dit ce matin qu'elle souffre, elle manque d'oxygène. Bon, c'est tout sauf serein, quoi. On a tenté de manière légale de retarder l'échéance, et je sais aussi que les circonstances de la mise en œuvre de l'arrêt des traitements ont été très très tendues. Les policiers sont venus, ça a été physique. Je crois que le papa a été contenu au sein d'un hôpital, entre des parents, entre des équipes soignantes en souffrance elles-mêmes, et une enfant, c'est quand même pas top, quoi. Même si je reconnais que le CHRU de Nancy a pris le temps, je crois, de négocier, de discuter, d'essayer de comprendre la situation. Mais je crois que la loi a permis ce genre de, la loi Leonetti a permis ce genre de confusion où on donne plus la main aux équipes soignantes et on fait croire aux familles finalement qu'ils ont des droits qu'ils n'ont pas réellement.
Un propos recueilli par Mathieu Barbier. Les ennuis judiciaires continuent pour les frères Bogdanov, Igor et Grishka, soupçonnés d'escroquerie, vont être présentés à un juge d'instruction aujourd'hui. Ils ont été déférés hier soir au tribunal. Ceux qui ne voient en Emmanuel Macron qu'un président des riches y trouveront la preuve de leur conviction. Le couple présidentiel souhaite la construction d'une piscine dans la résidence finances de Brégançon. Bonjour Estelle Schmitt.
Bonjour.
Racontez-nous cette histoire.
Eh bien, c'est simple. Le fort de Brégançon possède une plage privée. Seulement, les vacanciers de la plage voisine peuvent voir le président et sa famille en train de bronzer ou de se baigner. Et paparazzi, par la même occasion. L'Élysée veut donc préserver l'intimité des Macron, notamment des enfants, en faisant construire un bassin à l'intérieur du fort. Mais hors sol, parce qu'il n'est pas possible de creuser. Et comme le site est classé bâtiment historique, il faut d'abord l'avis de l'architecte des bâtiments de France ainsi que l'autorisation de la municipalité. La question, évidemment, Bruno, c'est le prix.
Oui.
Et qui va payer? D'après certains spécialistes, une piscine hors sol de grande taille coûte au moins 10 000 euros. L'Élysée explique que cette dépense sera comprise dans le budget de fonctionnement du fort, qui est de 150 000 euros par an, et que le financement pourrait aussi venir de la future boutique de l'Élysée, vous savez, qui vendra des produits dérivés dès le mois de septembre. Et le projet fait évidemment aussi bondir l'opposition. Tweet d'Olivier Faure, le patron du PS, sa piscine sera hors sol comme sa politique. À droite, Lydia Guirouz dénonce un comportement dispendieux du chef de l'État au moment où il demande toujours plus d'efforts aux Français. Petit sourire en revanche des sarkozistes. Macron serait-il lui aussi bling bling, demande un proche de l'ancien président.
Merci Estelle Schmitt. Plus d'un milliard d'utilisateurs. Le réseau social Instagram vient de franchir cette hauteur vertigineuse. Instagram, pour ceux qui ne connaissent pas, on y poste des photos et des vidéos. C'est le même groupe que Facebook, mais beaucoup ont abandonné le F blanc sur fond bleu au profit d'Instagram, plus convivial, plus artistique, plus branché. Certains ont même placé le réseau social au cœur de leur activité professionnelle. C'est le cas d'Anastasia. Elle partage avec ses milliers de fans sur Instagram des photos de Paris.
J'ai changé de travail grâce à Instagram. En fait, j'étais dans le milieu de conseil et à un moment donné, je me suis aperçue qu'en fait, j'aime beaucoup la photo et j'aime beaucoup communiquer. Et en fait, quand je suis arrivée à Paris, je n'ai pas trouvé de blog, je n'ai pas trouvé d'informations et je commençais à le faire moi-même. Et puis finalement, maintenant, c'est devenu une référence en fait sur Paris, plus dans le milieu russophone. C'est un outil de communication. Mais après, il faut savoir aussi que les photos, elles sont assez travaillées. Par contre, je fais souvent des stories. Je ne sais pas si vous connaissez ce super outil. En fait, les gens peuvent regarder ce que fait chacun chaque jour. Donc les stories, je les publie tous les jours et en fait, comme ça, les gens ont la possibilité de voir avec mes yeux Paris et la France. C'est un outil qui est très facile, beaucoup de gens l'ont. C'est très visuel. On a l'impression en fait de connaître la personne assez facilement. On voit le monde avec ses yeux et c'est un vrai travail.
Un propos recueilli par Philippe Randet. Nous parlions du football tout à l'heure, avant, pendant ou après le match de foot. Peut-être aurez-vous envie de profiter de la fête de la musique. Quelques échos de cette fête à Bordeaux. Le Ukulélé Club de Bordeaux, mais oui, est sur le pied de guerre. Olivia Chandiou, vous avez assisté aux répétitions générales hier sur le campus universitaire de Pessac.
3, 4. Concentration maximale pour les musiciens. Ils sont une dizaine à jouer pour le concert de la fête de la musique, dont Daniel, un jeune retraité.
Ça fait 2 mois qu'on s'y prépare. Et en fait, on fait 30 chansons. Là. C'est-à-dire qu'on joue 2 heures. Alors pour moi, je suis à la fois aux anges et à la fois je suis pétri de trouille, quoi, parce que ça va être chaud.
Il fallait s'arrêter là.
Je trouve qu'on n'y était pas.
Si, c'est pareil.
C'est compliqué.
Il y a un timing qu'on n'a pas.
Tout n'est pas encore parfaitement prêt. Pourtant, Maria n'est pas du tout stressée à l'idée de jouer à la gare.
C'est un endroit sympa, enfin, malgré qu'il y a des gens qui passent, qui enfin, parfois ils s'arrêtent. C'est sympa quand ils s'arrêtent, mais aussi enfin, tu peux toucher tout type de public. Et c'est cool.
Dans leur répertoire, Elvis Presley, Manu Chao ou encore Shakira. Et nouvelle dans le club, elle a dû rattraper son retard.
J'ai acheté un ukulélé l'été dernier et j'ai commencé à en faire un petit peu toute seule et j'ai rejoint le club au mois de février. Et là, je suis impressionnée des progrès que j'ai pu faire.
Et pour entendre les progrès d'Imane, rendez-vous à la gare de Bordeaux-Saint-Jean.
Est-ce que vous aurez froid? Est-ce que vous aurez de la pluie? Est-ce que vous serez sous le soleil pour la fête de la musique? Nous voyons cela.
La météo avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable, créateur de machines expresso à dose, fabriquées en France, à retrouver sur malongo.com.
Elodie Calac.
On retrouve notre perturbation du Berry vers les frontières allemandes avec un ciel nuageux. Le soleil reprend ses quartiers entre la Bretagne, la Vendée, la Normandie, la région parisienne et le nord de la Seine avec un petit vent de nord. Grand soleil aussi sur les plages de la Méditerranée. Partout ailleurs, de bons moments de soleil, ça devient parfois chaotique avec quelques orages. D'abord en montagne, sur les Alpes, les Pyrénées, le Massif central, la Corse, puis parfois jusqu'en plaine. Alors ces orages sont isolés, mais ils peuvent s'accompagner de bonnes quantités de pluie. Il fait encore chaud au sud de la Loire et dans l'Est. Ça baisse au nord, 16 degrés à Dinard et Étretat, 18 à Lille, 21 degrés à Paris, 24 à Angers, 27 à Strasbourg et Nevers, 31 degrés à Agen, 32 à Lyon, 34 du côté de Nîmes et 35 à Perpignan. Demain, il fera un peu plus frais au nord, moins chaud au sud aussi, et puis on profitera du soleil.